et de partager l'amour que le Seigneur, que nous avons reçu du Seigneur. Merci pour sa grâce, merci pour sa pitié envers chacun de nous et pour la bonté qu'il manifeste jour après jour. Alors, j'ai mis par écrit ce que je voulais vous partager parce que je viens du Québec et les Québécois parlent extrêmement vite. Et si je n'ai pas quelque chose pour fixer mes yeux de temps en temps, bien je vais m'emballer et vous allez avoir beaucoup de difficultés à me comprendre. Voilà. Consolez-vous, j'ai ralenti de 50% mon débit depuis que je suis arrivé en Belgique. Donc, la première fois que j'ai prêché à Verviers, la dame, il y avait une vieille dame qui était là. Et on m'avait dit, lentement, lentement. Et après la culte, pour m'assurer que ça avait bien été, j'avais été voir une dame et j'avais dit, ça a été. J'ai rien compris, mais c'était beau. Donc voilà, voilà. Alors rapidement, Dieu voulant, si je reviens dans cette communauté, je partagerai mon témoignage. Je ne suis pas un évangélique d'origine. Je ne viens pas d'une famille évangélique. Je viens d'une famille catholique, d'une mère pieuse. Je suis l'aîné de 8 enfants, donc d'une famille de 8 enfants. J'ai été le mouton noir de la famille et Dieu m'a bien attrapé un jour. Alors je me suis converti rapidement à l'âge de 33 ans. C'est vraiment par la grâce que le Seigneur est venu me chercher. Moi, je suis un policier de carrière et à l'âge de 33 ans, j'ai presque passé proche de me suicider avec mon arme de service. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a mis un chrétien évangélique sur mon chemin qui a osé partager l'Évangile. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de trouver ce que je cherchais depuis toujours. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde complètement détraqué dans lequel on vit, l'Église a un message extraordinaire à transmettre aux gens. On est en train d'avoir un retour du balancier. Et l'Église, dans ce retour du balancier, vraiment doit trouver sa place pour rappeler ce message que nous avons reçu de Jésus. C'est le seul message qui peut amener les gens à vivre finalement comme le Seigneur nous le demande. On parle souvent des valeurs morales de la République. Moi, je trouve que c'est des valeurs immorales de la République et non pas des valeurs morales, parce que c'est terrible ce que nos enfants vivent, c'est terrible ce que nos adolescents vivent. Au Québec, nous avons le plus haut taux de suicide chez les adolescents au monde, alors qu'ils ont tout. Mais ils ont tout ce que le monde peut leur offrir, mais ils n'ont pas encore trouvé ce que le Seigneur leur offre en Jésus-Christ. Et on a besoin d'ouvrir nos bouches. C'est vraiment important. Et on est sauvés pour servir. On est sauvés pour servir. Amen. Ah, vous dites amen ici. Ça, c'est bien. C'est bien. Ah, ça, c'est bien. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager un message. Je pense que c'est un fil conducteur à travers tout ce qu'on a vu ce matin, à travers les chants, à travers les cantiques que vous avez choisis. Et je n'ai pas choisi un passage de Noël, mais plutôt nous amener à partager 3 points ensemble. Pourquoi Jésus est digne que nous croyons en lui? Pourquoi Jésus est digne que nous lui fassions confiance? Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Nous lirons les versets 13 à 16. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons nous rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, encore une fois, nous voulons vraiment nous placer sous ton regard. Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme que nous voulons entendre ce matin, mais c'est vraiment cette parole qui est descendue d'en haut, qui est imprimée dans ce livre et qui a marqué nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment laisser la place à ton Saint-Esprit afin d'agir dans nos cœurs. Seigneur, tu vois les besoins de chacun ici, Seigneur, et Je suis persuadé, je suis convaincu que tu as une portion à travers ton message pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, Seigneur, ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur, que nous puissions aussi, Seigneur, non seulement nous contenter d'entendre, d'écouter, mais aussi de prendre la décision de mettre en pratique ce que l'Esprit a à dire à son Église, et que quand nous quitterons ce lieu, nous ayons la certitude, Seigneur, que non seulement tu nous as parlé, mais que tu nous as visités et que tu nous as marqués par ta parole. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Le peuple de Dieu dit « Amen ». On avait promis une petite fille qu'elle pourrait monter au sommet d'une colline et où son frère aimait jouer. Mais lorsqu'elle vit la pente qu'elle devait gravir et l'état du chemin couvert de pierrailles, elle renonça, découragée. Pourquoi, dit-elle, n'y a-t-il pas un autre chemin plus lisse qui serait plus facile à emprunter que celui-ci qui est tout bosselé et tout rocailleux? Il y en a un, lui répondit son frère aîné. Mais comment ferais-tu pour monter jusqu'au sommet si tu n'avais pas ces pierres et ces bosses? Car vois-tu, ces pierres et ces bosses nous permettent de bien appuyer nos pieds afin de ne pas glisser et de pouvoir nous rendre jusqu'au sommet de la colline. Ainsi, frères et sœurs, en est-il avec Dieu qui permet que nous affrontions certaines difficultés sur le chemin dans lequel nous marchons. Et pour le chrétien, les obstacles qu'il rencontre sur sa route peuvent être comparés à des pierrailles, à ces petites pierrailles, à ces bosses qui lui permettront de s'agripper et de progresser toujours plus haut dans sa relation avec le Seigneur. Souvent, nos vies ressemblent à cette colline que cette jeune fille devait grimper. Nous nous laissons souvent effrayer par les bosses, par les pierrailles que nous devons surmonter au quotidien dans notre marche chrétienne. Et nous oublions que dans tout ce que nous affrontons, Dieu a un plan. Et même si Dieu permet que nous vivions des choses difficiles, son but est de nous faire grimper toujours plus haut. Dieu a un plan pour chacun de vous. J'espère que vous en êtes convaincus ce matin. J'espère que vous en êtes convaincus. Ouais. La seule chose que je ne voulais pas faire dans ma vie, c'est être pasteur. Parce que c'est tellement compliqué de travailler avec des êtres humains. C'est plus facile de travailler dans une usine autour d'une machine. Quand tu es frustré, tu peux lui donner des coups de pied, mais tu ne peux pas faire ça avec des êtres humains. Et c'est très difficile de contenter tous les êtres humains. Et moi, je vous raconterai dans mon témoignage comment Dieu, par toutes sortes de moyens, Dieu s'y est pris pour dire, tant et si longtemps que tu ne réponds pas à l'appel pastoral, tu n'es pas dans mon plan parfait. Parce que le plan parfait pour moi, pour toi, c'est le pastorat. Et moi, vous allez voir, hein, je ne suis pas un gars qui a beaucoup d'éloquence, je fais beaucoup de fautes de français, mais Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour convaincre de péché, de justice et de jugement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'à chaque message, je dois m'en remettre entre ses mains, parce que si j'essaie par mes propres forces, je vais m'écraser comme une crêpe. Je ne suis rien sans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes rien sans le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 14, ici, nous avons vu que ces Hébreux vivaient des moments difficiles. Ils étaient persécutés et plusieurs avaient été torturés et tués à cause de leur foi. Ils avaient été isolés de la communauté. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Et leur foi était rudement mise à l'épreuve. Et non seulement plusieurs se sentaient abandonnés, mais certains étaient tentés de ne plus rendre témoignage publiquement de leur foi en Jésus afin de pouvoir jouir d'une vie facile. Et je crois, frères et sœurs, hein, sans esprit de condamnation, sans jugement, je crois que dans l'Église, on en est souvent rendu là, de peur d'être persécuté, on n'ose plus témoigner, on n'ose plus rendre témoignage de la parole, de la joie que le Seigneur a déposée dans nos vies, de la paix que le Seigneur a déposée dans nos vies. Et on a besoin, en tant qu'Église, je le dis, de revenir à ça, sinon on va disparaître, frères et sœurs. Il y a des gens, il y a d'autres personnes qui vont prendre notre place. Il y a d'autres religions qui vont prendre notre place. Mais on a un message puissant, on a un message magnifique. Vous savez, on parle souvent de la croix de Jésus, mais le message des premiers chrétiens de l'Église primitive, c'était pas « je crois en Jésus-Christ crucifié, je crois à la résurrection des morts, je crois à la résurrection des morts. Est-ce que vous croyez à la résurrection des morts? » Alors allez le partager aux autres, frères et sœurs. Allez partager que Jésus-Christ est vivant, qu'il a vaincu la mort, et de la même manière que Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, un jour, de la même manière, il vous ramènera aussi de la mort à la vie. Amen! Hey, c'est pas une bonne nouvelle, ça! Quelle bonne nouvelle! Hein, on rentre à l'église le matin, on rentre pas dans un salon funéraire. On rentre... L'église, c'est le royaume de Dieu que Dieu a placé sur la terre. C'est le reflet de l'amour et de la gloire de Dieu. On ne peut pas se permettre, en tant que chrétien, d'avoir des visages d'enterrement. On peut vivre des choses difficiles. Mais on ne peut pas laisser le diable nous voler notre paix et notre joie qui vient d'en haut. Cette paix, cette joie, elle vient d'en haut. On ne l'a pas reçue des hommes. Vous imaginez quelqu'un qui vous évangélise et qui vous dit, « Accepte Jésus, toi, hein? Tu vas voir que c'est gentil, Jésus. » Mais la personne a dit, « Ben écoute, moi, ça ne me tente pas d'aller de ton côté parce que tu as de l'air plus malheureux que moi, quoi. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai. On doit, même à travers nos malheurs, on est capable quand même de faire en sorte de refléter la personne de Jésus-Christ. On est quand même capable de refléter la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce dont le monde a besoin de voir aujourd'hui. Des gens dont Jésus-Christ vit sa vie en nous. Hein? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Galates chapitre 2, verset 20. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Et pour qu'il soit capable de vivre sa vie en moi, je dois être né de nouveau. Ce miracle à la nouvelle naissance doit avoir fait partie de ma vie. Si vous connaissiez l'ancien Jacques Hudon, vous ne me laisseriez pas prêcher en avant. L'ancien Jacques Hudon, il n'était pas aimable. Il se servait des gens pour arriver à ses fins. Mais cet ancien Jacques Hudon, je ne vous en parlerai pas parce qu'il n'est pas édifiant et il est mort. Il est mort. Vous avez le nouvel Jacques Hudon, le nouveau Jacques Hudon devant vous ce matin, ressuscité par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de la croix, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça que les gens ont besoin de goûter, c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Pas ce qu'on fait pour le Seigneur, mais ce que le Seigneur fait pour nous. Et d'être partagé aux gens. Amen. Bien que nous ne soyons pas persécutés aujourd'hui à cause de notre foi, nous sommes souvent tentés de vivre une foi qui ne coïncide pas nécessairement avec l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tentés de regarder ailleurs pour trouver de l'aide plutôt que de nous tourner vers le Seigneur. J'ai travaillé avec le pasteur René Hinault, que vous avez sûrement connu. C'est le premier Belge que j'ai rencontré dans ma vie. Il était venu au Québec. Il avait été une vingtaine d'années missionnaire en Afrique. Il me disait, dans les pays occidentaux, on ne voit plus Dieu faire des miracles. Il disait, en Afrique, tu n'as pas le choix, tu n'as plus rien. Tu es obligé de t'en remettre entre les mains du Seigneur. Et il me disait, René, j'en ai vu des miracles en Afrique. Mais ici, non. Tu es malade, tu n'as même pas besoin d'être... Tu ne pries même pas le Seigneur pour... Non, tu t'en vas directement à l'hôpital. Il arrive quelque chose, tu te fies sur les hommes. Et c'est une séduction pour l'Église. Nos enfants sont malades, on part tout de suite en courant, on s'en va à l'hôpital, alors qu'on devrait d'abord le remettre entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, c'est moi qui guéris. Je suis le Dieu qui guérit. La médecine, elle ne fait que soulager. Hein? Elle ne guérit pas. D'ailleurs, si vous achetez une boîte, chez nous, on appelle ça des, pas des Dafalgan, des Tylenol, mais l'équivalent des Tylenol, c'est marqué dessus « soulagement rapide du mal de tête ». Mais jamais ils marqueront « guérison du mal de tête » parce qu'ils savent que votre mal de tête va finir par revenir. Et les grandes compagnies pharmaceutiques, ils ont très bien compris que s'ils marquaient « guérison rapide du mal de tête », ils se feraient traîner devant les tribunaux parce qu'ils ont compris qu'ils ne guérissent personne. Dieu guérit, on l'a de notre côté, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit non plus agir comme des écervelés, mais au moins remettre quand on est malade, sans remettre entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur décide, choisit que ce soit les médecins qui nous soulagent, gloire à Dieu. Si c'est lui qui va opérer un miracle, gloire à Dieu. Moi, j'ai eu un cancer, on me donnait 6 mois à vivre, c'était inopérable, ça fait 10 ans que je suis debout, et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et mon médecin qui est chrétien, il a compris. Lui, quand vous rentrez dans son bureau, c'est marqué « La médecine soulage, mais Dieu guérit ». Il a compris, mon médecin. Il a compris. Ouais. La limite des hommes, c'est soulager le mal des gens. Et dans sa grâce, Dieu donne la science aux médecins pour qu'ils puissent soulager justement les gens du monde, parce que c'est le maximum qu'ils peuvent avoir, malgré que Dieu fait des miracles dans la vie même des païens. Mais on a un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est merveilleux, et on a besoin à chaque occasion qui se présente devant nous, de pouvoir intercéder pour aller chercher son aide. Parce qu'il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Amen. J'aimerais vous montrer ce matin, à partir de certains versets, pourquoi Jésus est digne que nous fassions confiance. J'aimerais que vous puissiez avoir la certitude, si vous êtes dans le doute ce matin, que vous pouvez lui faire confiance pour tous les besoins dont vous aurez à faire face dans cette vie. Après tout, si nous, et ça a été dit ce matin, si nous lui avons fait confiance pour nous laver de nos péchés et nous donner la vie éternelle, nous pouvons certainement lui faire confiance concernant les petits problèmes auxquels nous devons faire face au quotidien. Regardons donc pourquoi Jésus est digne que nous placions notre foi en lui. parce qu'il a la capacité de voir en tout temps ce que vous vivez. Verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13 qu'on vient de lire. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Et ce verset rappelle aux hommes que Dieu conserve un registre et qu'au jour du jugement, le Seigneur sera assis sur un grand trône blanc et les morts qui seront debout devant lui le verront. Ouvrez les livres, ainsi qu'un autre livre, le livre de vie. Les morts seront jugés selon ce qu'ils ont fait d'après ce qu'il y a dans ces livres. Et quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie sera jeté dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Frères et sœurs, quand les gens meurent, les non-chrétiens s'en vont dans le séjour des morts, et les chrétiens s'en vont directement au paradis en fonction de la parole que Jésus a dite aux malfaiteurs sur la croix. Avant la croix, il y avait le séjour des morts séparé en deux, ceux qui sont en attente du jugement et ceux qui attendaient la délivrance par la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, quand les gens meurent, les gens du monde meurent, ils ne s'en vont pas en enfer. Ils s'en vont toujours dans le séjour des morts en attente du jugement dernier, puisque dans le jugement dernier, ils vont sortir du séjour des morts pour être jetés dans le lac de feu. Frères et sœurs, là, on a besoin de réaliser que l'enfer, ce n'est pas Disney Paris, ce n'est pas une plaine de jeux. Il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Tout le monde va avoir un corps éternel. Les uns pour entrer dans la félicité éternelle, mais les autres pour souffrir pour l'éternité, sans jamais mourir. Frères et sœurs, on a besoin de revenir à ce que les Écritures disent. L'enfer, c'est un lieu bien réel. Et l'Église a besoin de revenir dans la crainte de Dieu. On a parlé de la justification, de 1000 enfants sur la justification depuis 50 ans, mais la sanctification, frères et sœurs, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, dit la parole. Ce n'est pas Jean Cudon qui le dit, c'est la parole qui le dit. On a besoin. Et en Jésus-Christ, on a cette capacité en Jésus de vivre comme Dieu nous le demande. Parce que Dieu a déposé l'Esprit de son Fils en nous. Le même Esprit que Jésus avait quand il est venu sur la terre, c'est le même Esprit que nous recevons, c'est le sien. Et Dieu est capable de continuer à accomplir des miracles et des prodiges et nous changer, nous transformer à l'image de son Fils. Cependant, si Dieu a la capacité de voir toutes les mauvaises actions commises par les méchants, il a aussi la capacité d'observer tout ce que font ses enfants. Rien ne lui échappe, il dirige ses regards partout, il observe aussi bien les bons que les méchants, il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. C'est moins difficile à compter pour certaines têtes, mais pour d'autres, il y en a quand même beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. Il voit les épreuves que vous traversez, les tentations que vous devez affronter. De plus, il voit non seulement les larmes qui coulent de vos joues, mais il en connaît le nombre et il les recueille dans son outre. Et moi, c'est une image qui m'a fait pleurer dans le passé, mais je trouve ça magnifique, cette image-là. Dans le psaume 6, verset 9, le psalmiste y souffre. Et le verset dit, « Il entend la voix de mes larmes. » Moi, je trouve ça magnifique. Des fois, on est tellement désespéré, des fois, on vit tellement des choses difficiles qu'on vient, on se met à genoux et on voudrait crier au Seigneur notre désarroi. Et finalement, il n'y a rien qui sort de notre bouche, ça sort de nos yeux. Je trouve que l'image, elle est belle ici parce que la parole dit que le Seigneur, les paroles que tu aurais voulu dire, il va les chercher dans tes larmes et il les recueille dans son outre. C'est extraordinaire, ça. Le psaume 6, 9 dit, « Il entend la voix de mes larmes. » Psaume 56, 9 dit, « Il les recueille dans son outre. » Il n'y a rien qui est perdu. C'est extraordinaire. Et finalement, le psaume 116, 8 dit, « Et c'est lui qui sèche nos larmes. » Ça veut dire, c'est lui qui nous console. Il est notre consolateur. Quelle belle image! Quelle belle image! On a peut-être de la difficulté à prier, mais si vous êtes pris dans des choses difficiles ce matin, que tout ce qui sort, ce sont des larmes, rappelez-vous que Dieu recueille vos larmes, que Dieu entend les paroles que vous auriez voulu exprimer à travers vos larmes, qu'il les recueille dans son outre, et que c'est lui qui va sécher vos larmes, parce que c'est lui votre consolateur. Il est non seulement le Créateur, mais il est aussi notre bon Père céleste. Et à ce titre, parce qu'on est ses enfants, il a pris un engagement, il va veiller sur nous, il va pourvoir à nos besoins. Amen. Amen. Quand la conduite d'un homme lui plaît, nous dit la parole, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Et si cet homme vient à tomber, il ne reste pas par terre, car le Seigneur le prend par la main. Le Seigneur le prend par la main. Avez-vous déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber? Et là, vous avez de la difficulté à vous relever parce que le fardeau, il est lourd, le fardeau, il est pesant. Et ce que vous vivez, c'est écrasant. Et pourtant, vous sentez la main du Seigneur qui veut vous relever. Qui veut vous relever. Et non seulement se contenter de vous relever, mais qui veut vous porter. Qui veut vous porter. Alors souvent, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai du repos. » Et souvent, il n'attend même pas qu'on vienne à lui. Il vient nous chercher. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il vient nous chercher. Et on porte encore notre fardeau, mais il nous accompagne avec notre fardeau. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on se décharge sur lui. Et ce matin, si vous vivez des choses difficiles, déchargez vos fardeaux sur lui. Moi, le Seigneur a accompli des miracles extraordinaires dans ma vie. Je suis convaincu que ce n'est pas juste réservé à Jacques Hudon. En 2016, les miracles, c'est accordé à tous les membres du peuple de Dieu. Ouais. Il y a des promesses dans la parole et on doit s'emparer des promesses. Parce que ces promesses, elles sont sûres et certaines. Le fondateur de l'armée du salut, William Booth, a dit ceci. Les promesses de Dieu sont certaines. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Et c'est avec cette phrase-là que Dieu a utilisé l'armée du salut pour réveiller son Église à l'époque de William Booth. En l'espace de 5 ans, ils étaient dans 90 pays. Ce n'étaient pas des gars qui avaient une grosse théologie, hein. Ils manifestaient qu'il y avait l'amour pour leur prochain, en les aidant, en aidant les malheureux, en les sortant de la misère dans laquelle ils se trouvaient. Ils n'étaient pas tournés vers eux-mêmes, ils étaient tournés vers le monde, parce que c'est le monde que Dieu nous appelle à sauver. En principe, on est tous des sauvés dans l'Église, mais c'est le monde que Dieu nous appelle à sauver. Amen! Peu importe ce que vous vivez dans la vie, soyez assurés que Dieu est toujours en contrôle de ce qui arrive, et vous savez du reste que c'est pour votre bien. Rappelez-vous ce que Joseph a dit à ses frères dans Genèse chapitre 50, verset 20. « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien parce qu'il avait en vue de sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Chers amis, l'homme élabore des plans, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Et quand on regarde la vie de Joseph, à partir du moment où vous allez commencer à témoigner, il y a des gens qui vont vous mettre de côté, c'est vrai. Mais la consolation, c'est que Dieu ne nous met pas de côté, lui. Dieu nous accompagne, Dieu nous soutient dans cette tâche d'évangélisation. Rappelez-vous, un petit garçon, je vais sauter quelques lignes parce qu'on va terminer tard. Un petit garçon était en train de jouer avec son voilier au bord d'un lac lorsque le vent poussa le voilier hors de la portée de l'enfant. Lorsqu'il vit que son bateau s'éloignait de plus en plus du bord, il commença à pleurer. Il y a un adolescent qui était tout près, qui l'a entendu, et qui a commencé à lancer des pierres en direction du voilier. Et le petit garçon lui dit, « Pourquoi tu jettes des pierres sur mon voilier? » Et l'adolescent lui dit ceci, « Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de jeter des pierres de l'autre côté de ton voilier afin de créer des vagues qui le ramèneront vers le bord. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. » Chers amis, Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il lance des pierres dans nos vies. Elles sont simplement destinées à créer des vagues afin de nous rapprocher davantage de lui et non pas à nous éloigner de lui. On a un Dieu magnifique, n'est-ce pas? On a un Dieu qui est bon, hein? Et même si souvent il n'est pas le premier dans nos vies, Dieu ne nous lâche pas. Quand on lui appartient, vous pouvez être certain que Dieu ne vous lâchera pas. Moi, le moindrement qui commence à pas être le premier dans ma vie, il vient me frapper. Il vient me frapper puis il me remet sur le droit chemin parce qu'il me dit, écoute, toi, tu es censé me glorifier à travers toi. Pour l'instant, ce que tu vis, il n'y a rien qui ressort de toi. Maintenant, je vais te chercher. Pourquoi? Parce que tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Et Dieu sait bien, hein? C'est vrai, hein? Qui aime bien punir, qui aime bien châtier bien, frères et sœurs. Maintenant, Dieu, ce n'est pas le bâton qu'il prend, c'est avec amour qu'il vient nous chercher. Et quand on ne comprend pas, il vient frapper encore un peu plus fort. Hein? Mon cancer, je l'ai eu parce que c'est à cause d'un non-pardon. Vous imaginez, hein? Un non-pardon, hein? Ouais. Ouais. Un non-pardon. Le Seigneur m'avait montré que je n'avais pas pardonné, hein? Ben oui, Seigneur, ben oui. Pardonnez, hein? Ça n'avait pas descendu encore ici, hein? Pardonnez, hein? Ouais. Et là, j'ai eu mon cancer, on m'a dit, t'as 6 mois à vie, je t'enterre dans 6 mois. Ouais. Et un soir à genoux, j'entends, je suis en train de prier, j'entends le Saint-Esprit qui dit ceci. Le non-pardon et l'amertume, c'est comme un cancer qui ronge. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je faisais? Tu n'as pas pardonné. Et si tu ne pardonnes pas, je te rappelle à moi. Je suis allé trouver la personne, je lui ai demandé pardon. Je me suis remis à genoux et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, « Je t'ai guéri. Je t'ai guéri. » Frères et sœurs, Dieu joue sa réputation sur vous. Dieu joue sa réputation à travers ses enfants. Quand les gens nous regardent, ils doivent voir la personne de Jésus-Christ à travers nous. Est-ce qu'on reflète le caractère de Christ? Est-ce que vous vous rappelez en tant que parent que la première église à laquelle vos enfants, que l'église que vos enfants fréquentent, c'est votre maison? Que le premier pasteur qu'ils ont, qu'ils leur ont donné, c'est leur père? Que l'enseignement pratique qu'ils reçoivent pour la première fois, la première école du dimanche, c'est leur maison. Moi, en tant que pasteur, mon cœur saigne quand je vois des ados, je vais leur demander pourquoi. Qu'est-ce qui les empêche d'accepter le Seigneur? Et qu'ils me disent, écoute, la religion de mes parents, j'en ai rien à cirer. Ils se disputent toute la semaine. Le dimanche, ils viennent à l'église. Ils louent le Seigneur comme si rien n'était. Mes parents, ce sont des hypocrites. Frères et sœurs, on vient demander au pasteur de prier pour le salut de nos enfants, alors qu'on toute la semaine, on est un contre-témoignage en nos foyers. On a besoin de se rappeler, frères et sœurs, que l'exemple, le modèle de Jésus-Christ à laquelle nos enfants sont appelés à rencontrer pour la première fois, ce sont les parents. Ce sont les parents. On a besoin de se rappeler de ça. Vous savez, l'école du dimanche, ça n'a pas été inventé pour l'Église. C'est Doit-être Maudit qui a créé l'école du dimanche, parce qu'il est arrivé avec 300 enfants du monde qui est allé chercher et qui a amené dans l'Église. Et là, on a fait l'école du dimanche. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, l'Église a dit, OK, on va mettre nos enfants aussi. Mais en réalité, ce n'est pas à l'Église à enseigner les enfants. C'est aux parents à la maison. Hein? Le modèle, il est à la maison. Et on a besoin de se rappeler de ces choses-là, frères et sœurs. On a besoin de revenir à l'origine. C'est important. Parce que finalement, nos enfants, ils imitent qui dans la vie? Le père ou la mère. Hein? Quand il y a un parent qui vient se plaindre, moi, de son enfant, je lui dis tout de suite, je lui dis, il ressemble à lequel des deux? C'est la question que je leur pose. Il ressemble à qui des deux? Au père ou à la mère? Parce que c'est là qu'il va chercher sa copie. Hein? C'est vrai. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Oui, hein? Ah ouais, hein? Ah ouais. Vous savez, mon père, il y a des choses qui me tombaient sur les nerfs quand je le voyais. Et je, dans le monde, je me disais, « Ah, oh, j'espère que jamais je vais ressembler à mon père. Jamais, jamais, jamais. Ah. » J'ai 67 ans aujourd'hui. Hein. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, « Oh non, ça, c'est à papa. Ça, c'est à papa. Ah, oh, oh, c'est-tu laid, hein? » Ouais. Il y a des choses que j'ai héritées de mon père. Hein. Ouais. Et ça confirme que, finalement, il y a un héritage incroyable de nos comportements, de nos attitudes qu'on hérite de nos parents. Et on a besoin, en tant que parents, de se dire, hey, « le Seigneur, c'est pas à l'Église qui a confié les âmes de mes enfants. C'est à moi d'abord qui les a confiés. Le salut, là, c'est dans la maison que ça se passe. Et ça doit commencer d'abord à travers les parents. C'est pas à l'Église. On se débarrasse pas de nos enfants. Bien lancé dans l'Église, occupez-vous de leur salut. C'est d'abord dans l'Église. Amen. Trop souvent, nous souhaitons voir le soleil toujours briller et vivre une vie sans nuages et ne pas avoir de lourdes responsabilités à assumer, mais une vie sans fardeau et sans épreuve, qui n'offre aucun défi à relever, ne serait ni stimulante ni productive. Nous avons besoin non seulement du soleil, mais également de la pluie pour vivre une vie qui soit productive et intéressante. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé à des métallurgistes de tester l'acier qui serait utilisé pour construire les chars d'assaut qui seraient fournis aux soldats américains partis combattre au front. Ils devaient s'assurer que le métal était ni trop mou ni trop dur lorsqu'il sortait des fours. Et on appliquait alors une certaine pression pour déterminer la limite de résistance que l'acier avait pour savoir si on pouvait l'utiliser. Et des contrôles étaient également faits afin de s'assurer que l'armure que les soldats porteraient résisterait aux balles. Et si des faiblesses apparaissait dans l'acier, on le trempait encore un peu plus longtemps et lorsqu'il quittait l'usine, il était bien préparé à résister à la pression des balles que les soldats pourraient se recevoir durant les combats. Frères et sœurs, c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Pour bien nous préparer à travailler et à devenir les instruments de sa louange, le Seigneur nous fait passer dans le four des épreuves afin de nous révéler nos faiblesses, transformer ce qui ne va pas dans nos vies et nous purifier. Bien préparés, nous sommes alors capables de résister à la pression exercée dans le monde et à la guerre spirituelle qui fait rage. Tout ce que Dieu permet qu'il nous arrive ne vise qu'une seule chose, nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 29. Vous pouvez avoir la vision de l'Église que vous voulez, le mandat que Dieu s'est donné pour chacun de ses enfants, qui est passé de la mort à la vie, né de nouveau, Romains, chapitre 8, verset 29, c'est de nous amener tous à ressembler à Jésus-Christ. Et à la résurrection des morts, quand on aura un corps glorifié, on aura l'image, la même image, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, je ne sais pas si on va finir le message ce matin, mais ce sera du Seigneur. Le Seigneur, ici, ce qu'on a besoin, tous et chacun, ce matin. Tantôt, notre frère en avant, Patrick, a parlé que le Seigneur dit, et les choses se sont apparues. Il y a une seule chose que le Seigneur n'a pas créée à partir de sa parole. C'est l'homme. Ouais. L'affection que le Seigneur éprouve pour nous. Vous êtes des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu. Vous faites partie du summum de la création de Dieu. Il est normal que le diable cherche à vous démolir, à vous dire que vous êtes des moins que rien, des minables. Mais aux yeux de Dieu, regardez la valeur que vous valez, chers amis. À quel prix Dieu a-t-il évalué votre vie? Si vous êtes des minables pour le Seigneur, pour le diable, vous êtes des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu qui valaient la peine d'être sauvées. Même si on se moque de lui, même si on lui a craché dans le visage, même si on a baigné dans le péché, Dieu a accepté de payer le prix que la loi demandait pour que vous puissiez passer de la mort à la vie. Amen. Alors, on n'a pas n'importe qui est venu mourir sur la croix. C'est celui qui tient l'univers dans ses mains qui est venu mourir sur la croix, qui s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Il a dit, pour toi et pour toi, j'accepte de donner ma vie pour que tu puisses passer l'éternité dans ma présence. Hey, quel Dieu merveilleux. On n'a pas un beau message à transmettre. Quel Dieu merveilleux qu'on a. Non? Hein? Ouais. Quel Dieu merveilleux qu'on a, frères et sœurs. Et le Seigneur, malgré ma vie épouvantable, le Seigneur a accepté de payer le prix pour moi. Et le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa bonté, a permis qu'il y ait un chrétien non timide qui s'ouvre la bouche, qui vienne me parler de l'amour de Jésus-Christ pour moi. Sinon, je serais mort aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent à tous les jours dehors sans Christ. Et dont la destinée éternelle, c'est l'enfer. Mais je pense qu'on a oublié dans l'Église, à quelque part, que c'est l'enfer qui les attend. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas de connaître l'Évangile, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de connaître le Dieu de la parole. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu par cœur, ils n'étaient pas sauvés. Mais celui qui connaît Dieu de la parole, c'est celui qui vit une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Ça, c'est pharisien, c'est la religion, et connaître Dieu de manière personnelle, ça, c'est la relation. Et c'est une grâce extraordinaire qu'un petit être humain puisse vivre une relation avec le Dieu créateur qui existe depuis toujours. Quelle bénédiction! Quelle grâce! Deuxièmement, il a la capacité de compatir à notre douleur, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, verset 15, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est capable de compatir à nos faiblesses. Et frères et sœurs, la compassion, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Ça me bénit parce qu'il y a une sœur dans l'Église, ça fait 30 ans qu'elle est dans l'Église, elle avait tellement peur d'aller à l'extérieur pour évangéliser. Et j'ai réussi à la convaincre, je lui ai dit, écoute, tu vas venir avec le pasteur. Je sais pas pourquoi avec le pasteur, il y a des gens, aussitôt tu dis tu viens avec le pasteur, on dirait que bon, tout est merveilleux, tout va s'ouvrir. Hein? Bon, c'est pas ça du tout. Hein? Mais elle est en confiance, elle est venue. La première année, je me souviens le matin, elle a dit, bon, moi je trouve qu'on perd notre temps. Hein? Parce que chez nous, on en fait toutes les années, hein? Tous les étés. Un peu comme de l'eau ici, là. Nous, on a mission en vacances, donc on fait ça, on fait même du porte-à-porte. On se présente vraiment comme des chrétiens baptistes de l'Église de Delain. On ne tourne pas autour, on n'essaye pas de prendre des gens de manière frauduleuse. On dit vraiment ce qu'on est, on vient vraiment dire pourquoi on vient. Et les gens, ils acceptent de nous parler. Il y en a d'autres qui disent non, mais poliment. Et moi, depuis 5 ans, je ne me suis jamais fait insulter. Les Belges, je trouve qu'ils sont énormément polis. Hein. Énormément polis. Ouais. Vous allez au Québec, vous avez un coup de pied dans le derrière, vous avez des claques dans la figure, vous êtes incapable de parler de l'Évangile au Québec. Mais ici, les Belges, ils sont polis. Hein. Ouais. Tellement polis que tu sais, quand il n'est pas intéressé, il ne dit pas un mot. Et à la fin, il dit non, merci. C'est mieux ça qu'un coup de pied, hein? Ouais. Et elle m'avait dit ça le matin, elle dit oh, je trouve qu'on perd notre temps. Et l'après-midi, le Seigneur l'a pris au mot, on a frappé dans une porte, le monsieur nous a laissé rentrer. 88 ans, il a accepté le Seigneur. La sœur, elle pleurait à côté de moi. Et j'ai dit, c'est toi qui fais faire la prière, elle pleure. Pas, il n'entend rien, il ne comprend rien. Ouais. Accepté le Seigneur. 88 ans. Il était mûr, quoi. Témoin de Jéhovah qui passait. On a essayé de l'arponner. Et dans sa grâce, Dieu a permis qu'on se présente. On lui a expliqué le message simple de l'Évangile. Il y a 88 ans, j'ai dit, est-ce que ça tourne bien? Je me suis dit, est-ce que ça tourne bien? Est-ce que bien compris? Alors, il s'appelait Edmond. Je dis, Edmond, dis-moi maintenant ce que tu viens de comprendre. Ah, il m'a donné le plan du salut, mais comme un enfant, quoi. Hein? Et là, moi, je me suis mis à pleurer avec la sœur. Et cette année, elle a commencé cet été. Elle a dit, oh, j'y vais. Hein? Écris mon nom tout de suite, hein? J'y vais. Et cette année, elle l'a fait. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, maintenant, j'ai la piqûre de faire de l'évangélisation. Ah, j'ai dit, pourquoi? L'année passée, je n'avais pas la compassion. Cette année, j'ai la compassion. C'est ce qui fait toute la différence. Jésus était ému de compassion devant la foule qui marchait sans berger. C'est la compassion souvent qui nous manque et qui va pousser l'amour que nous avons en Jésus-Christ d'aller vers les perdus, de tenter d'ouvrir des portes pour pouvoir leur parler du Seigneur. Certains peuvent se dire en eux-mêmes, comment Jésus peut-il savoir jusqu'à quel point je souffre dans ce que je vis présentement, lui qui est parfait, qui habite quelque part dans le ciel? Comment est-il possible qu'il puisse comprendre ma souffrance? Il est capable de savoir ce que nous ressentons parce qu'il a vécu en tant qu'homme sur la terre et qu'il a expérimenté les mêmes difficultés auxquelles vous êtes confrontés, que je suis confronté jour après jour. Alors le Seigneur, ici, de quoi il parle? Il a expérimenté les mêmes choses que vous. Les mêmes tentations. Les mêmes. Il a été tenté, il sait ce que nous ressentons lorsque nous sommes tentés. Il a été tenté dans chacun des domaines auxquels nous sommes tentés aujourd'hui. Et frères et sœurs, le diable a tout fait pour l'amener à satisfaire ses propres désirs et à posséder ce que l'on voit. Et les tentations qu'il a dû affronter ont probablement été supérieures en intensité à tout ce que nous pouvons avoir vécu. Il sait ce que c'est que d'être rejeté. Il a vu beaucoup de ses disciples se retirer et cesser d'aller avec lui. Il peut compatir à vos malheurs, il peut compatir à vos problèmes, frères et sœurs. Il sait ce que c'est que de voir le monde vous tourner le dos. Il sait ce que c'est que de vivre des choses que personne dans cette salle n'expérimentera jamais. Il sait ce que c'est d'être abandonné alors que vous auriez besoin d'être soutenu. Dans le jardin de Gethsémané, au moment où on venait l'arrêter, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuir. Vous savez, quand vous avez un cancer, la chose principale que vous avez besoin après le traitement, c'est un support moral, un soutien moral. Et moi, quand j'allais à l'hôpital, au grand hôpital de Verviers, alors on attendait souvent, parce que c'est une épidémie le cancer. Hein? On ne nous le dit pas, mais c'est une épidémie. Hein? Tous les services de cancer dans les hôpitaux, c'est bourré, c'est rempli. Et moi, on ne pouvait pas me dire que je faisais du prosélytisme. Moi, je me promenais d'une chambre à l'autre et puis je rendais témoignage. J'étais un malade, donc je rendais témoignage à tout le monde. Et j'ai eu des témoignages épouvantables. Quand on parle qu'on aurait besoin d'être soutenu et qu'on n'a pas ce soutien-là, des femmes de 60, 69 ans, 70 ans qui, en plein cancer, sont abandonnées leur mari, elles sont abandonnées par leur mari qui s'en va avec une maîtresse parce que leur femme n'est plus bonne à rien, quoi. Alors qu'on a besoin d'un soutien moral et que cette femme-là, elle est toute seule, livrée elle-même, quoi. Même pas personne pour venir la conduire à l'hôpital ni la chercher après son traitement. Frères et sœurs, le Seigneur, il a vécu ça. Il sait ce qu'on ressent dans notre cœur. Et il est le soutien de mon cœur. Il y a un chant qui dit, tu es le soutien de mon cœur. Il est le soutien de votre cœur. Il est le soutien de mon cœur. Et on peut toujours compter sur lui. Il ne fait jamais défaut. Amen. 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 Nous, on lui fait souvent défaut. Mais lui, il ne nous fait jamais, jamais défaut. Voilà. Alors qu'il est suspendu sur la croix pour nos péchés, il voit Dieu lui-même se détourner de lui. Et il endurait ces choses afin qu'il puisse nous aider lorsque nous faisons face à un besoin particulier dans notre vie. Il sait ce que c'est que manquer du nécessaire et être dans le besoin. Si les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, Jésus lui-même n'avait pas un endroit où il pouvait se coucher et se reposer. Il sait que certains ont beaucoup d'argent, au point de ne pas savoir quoi en faire. Mais il sait aussi que tous n'ont pas ce privilège. Et il pourvoit leurs besoins dans les moments difficiles. Frères et sœurs, l'argent, ce n'est pas un problème pour Dieu. À un moment donné, on a voulu les coincer. « Hey, est-ce que tu payes tes impôts à César? » Pierre, point filet, prends donc ta ligne. Premier poisson, prends la pièce qu'il y a dans sa bouche. Va donc payer les impôts pour qu'on ait la paix. Frères et sœurs, si nous, souvent, l'argent, c'est un problème, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Hein? Il nous dit dans l'Ancien Testament que tout l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas un problème. Hein? Le problème avec l'argent, c'est que souvent, on a trop les yeux rivés sur l'argent et pas sur le reste. Hein? Et c'est là qu'on dépérit, c'est là qu'on déprime. Hein? Ouais. Et la question qu'on peut se poser à travers ce message, jusqu'à quel point je fais confiance au Seigneur Jésus-Christ dans ma vie ce matin? Jusqu'à quel point je m'appuie sur les forces de Jésus-Christ pour avancer dans ma vie? Est-ce que je combats encore sur mes propres forces ou si j'ai tout remis entre ses mains parce que lui a les forces nécessaires, non seulement et pour combattre ce que je vis au quotidien? Il sait ce que c'est que d'avoir le cœur triste. Lorsqu'il vit Marie, que Marie pleurait ainsi que ceux qui étaient venus avec elle parce que Lazare était mort, il en fut profondément ému et troublé, il pleura. Lorsqu'il vit l'état spirituel des habitants de Jérusalem, Jésus pleura, Luc chapitre 19, verset 41. Jésus sait exactement ce que c'est que de perdre quelqu'un que vous aimez. Il a perdu un ami dans la personne de Lazare. Il a pleuré quand il a vu la tristesse que la mort pouvait amener dans la vie des gens. Par conséquent, il peut nous aider, il peut vous aider lorsque vous devez faire face à ce genre de situation. Il comprend ce que c'est que d'avoir le cœur brisé parce qu'on a perdu un être cher. Il sait ce que c'est que la solitude. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il priait et qu'il se rappelait ce qu'il attendait, il a vécu un grand moment de solitude, au point de demander à Dieu si c'était possible qu'il éloigne de lui cette coupe de douleur. Et lorsqu'il était cloué sur la croix et qu'il portait nos péchés, il a vécu là aussi un grand moment de solitude, au point de dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Avez-vous remarqué une chose? Il n'a jamais dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est en train de s'adresser au Dieu de sainteté qui avait détourné la face de son fils qui portait le péché du monde sur lui. Mais le père ne l'a jamais abandonné. Il n'a jamais perdu l'affection du père. Et c'est la même chose pour nous. Peu importe ce qui arrive dans nos vies, notre relation peut être diminuée à cause du péché, pour différentes circonstances, mais on ne perdra jamais l'affection du père. On ne perdra jamais l'amour du Père. Et ça, c'est ce que le diable va essayer de nous faire croire, que Dieu ne nous aime pas. Et quand il réussit à nous convaincre que Dieu ne nous aime pas, on est livré à nous-mêmes. Hein? On est comme des poules sans tête. Hein? On ne sait pas de quel côté aller. Ouais. Mon Dieu, n'est pas mon Père. Mon Dieu. Et Jésus est venu nous présenter le Père. Si vous saviez à quel point le Père vous a aimé, dit Jésus-Christ. Il vous a tellement aimé. Et le mot grec pour tellement, c'est il vous a aimé de façon démesurée. Il vous a tellement aimé de façon démesurée qu'il a offert son propre fils en sacrifice afin que quiconque, et le quiconque, il n'exclut personne. Le quiconque en grec, c'est tout le monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Rapidement, et troisièmement, il a la capacité de résoudre vos problèmes. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, verset 16, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Seigneur nous invite à venir à lui pour trouver l'aide dont nous avons besoin pour affronter la vie. Pourquoi est-il celui que nous utilisons souvent en dernier ressort alors qu'il devrait être le premier? Pourquoi? Ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Hein? Ce que je vous raconte là, je suis capable de vous le raconter de façon libre parce que tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu, quoi, hein? Alors, je vous partage mes expériences, quoi. Je vous partage aussi où j'ai été libéré dans ça, quoi. Hein. Parce que quand on vient au monde, hein, je ne sais pas si c'est comme ça ici en Belgique, mais au Québec, c'est comme ça. quand tu viens au monde, à partir du moment où tu commences à être capable de comprendre puis d'envoyer le message dans ton cœur, eh bien, c'est fait. On dit souvent, fais pas confiance à personne, fais confiance à toi-même. Fais jamais confiance à quelqu'un, fais confiance à toi-même. C'est vrai, ça, hein? Et là, on arrive devant le Seigneur, on dit, c'est terminé, ça! Arrête de te faire confiance! Fais-moi confiance, maintenant! C'est pas facile de briser ce joug-là. C'est pas facile. Et pour certains, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Et ça répond à la question de Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il renonce à lui-même, hein, c'est-à-dire renoncer à lui-même, ses ambitions, et qu'il me suive. Ouais. Mais ça peut prendre des années avant d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que se fier sur nous-mêmes, on s'est mis des balises de sécurité. Ouais. Ah, si ça dépense ça, je vais aller chercher un copain pour m'aider. Si ça ne fait pas avec un copain, on va aller chercher 3-4, on va y en donner une bonne. Mais avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur dit, c'est terminé ça. Tu n'es pas un enfant de colère, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, c'est moi ton père, maintenant tu vas me faire confiance. Et à bien y penser, toujours une question de foi, hein? Le juste vivra par la foi dans tous les domaines de sa vie. Moi, quand j'étais tout petit, je viens d'une famille pauvre. Hein? Je vous raconterai ça dans mon témoignage. 8 enfants, milieu le plus criminalisé de la ville de Montréal. Alors, où on devait se battre régulièrement pour faire notre place. Eh bien, moi, je n'ai jamais douté que mes parents ne pourvoiraient pas à mes besoins. Jamais. Ça ne m'est jamais venu à la tête, ça. On mangeait souvent des restes. Ma mère, elle faisait des miracles avec les restes qu'elle avait. On n'a jamais manqué de rien. Je me souviens que ma mère, elle faisait des mitaines. Elle nous faisait des mitaines. Avec des vieux restants de tissu. Mais on n'a jamais manqué de rien. Frères et sœurs, à combien plus forte raison celui qui tient l'univers dans ses mains va pourvoir à tous vos besoins. Il les connaît, vos besoins. Le problème, c'est qu'on vit dans une génération qui veut vivre au-dessus de ses besoins. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que si Dieu nous donnait au-dessus de nos besoins, ça ne prendrait pas de temps qu'on le mettrait de côté. Parce que quand tout va bien dans la vie, frères et sœurs, on n'en a rien à cirer de Dieu. On n'a rien à cirer de Dieu. C'est quand c'est comme une petite maladie ici. Oh! Ah, c'est bizarre, elle ne guérit pas ma maladie. On va voir le médecin. Tu vas aller passer une échographie. L'échographie, tu vas aller passer un petit scan. Au scan, oh! Là, on t'annonce la mauvaise nouvelle. Et là, tout de suite, hein? Là, t'as tes yeux, c'est plus là, c'est au plafond. Là, c'est vers le ciel. Puis c'est là, tu cries au secours. Hein? Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Là, tu confesses tout ce que tu peux confesser, que tu te rappelles. On est comme ça, hein? On est des êtres humains. Vous avez peur de dire oui? Moi, je suis le premier. Je suis le premier. On est comme ça, des oublieux. On oublie la grâce que Dieu nous a faite. On oublie les promesses que Dieu nous donne. Et là, oh, allez, on s'en va. On vogue bien, hein? Ouais, ouais. Et là, ben, le Seigneur, il voit que le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, il est là. Il voit qu'on s'en va de ce côté-là. Paf! Il nous ramène, hein? Et gloire à Dieu qui nous ramène. Gloire à Dieu. Au moins, quand on meurt, on ne doute pas où on va aller, quoi. On continue à avoir la certitude de notre salut. Hein? Que le diable ne peut pas nous voler, puisque c'est quelque chose qui vient de Dieu. Vous finissez à quelle heure d'habitude? Nous sommes si souvent coupables d'essayer n'importe quoi d'autre avant de nous approcher de lui pour demander de l'aide. Ne nous est-il pas dit, lorsque nous traversons des moments difficiles, de ne nous inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, de lui faire connaître dans la prière ce dont nous avons besoin et de le faire avec un cœur reconnaissant et que sa paix qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. Ne nous est-il pas demandé de nous décharger sur lui de tous nos soucis car il prend soin de nous? Il est tout-puissant. Imaginez la sorte de puissance qu'il possède. Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. C'est un verset qu'on devrait apprendre par cœur. Éphésiens chapitre 6, verset 20. Tu demandes quelque chose, Dieu dit, j'ai encore la puissance de donner plus. Le problème, on ne reçoit pas plus, mais on ne reçoit pas ce qu'on a demandé parce qu'on ne l'a même pas demandé. J'étais avec un couple de jeunes chrétiens, là, il y a 2 semaines, hein? Et là, je le regardais, je dis, oh, Seigneur, il faudrait qu'il vienne témoigner dans l'Église, lui. Ouais. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient, ils ne reçoivent jamais rien. Et lui, c'est bizarre, il ne connaît pas trop la parole, il ne la connaît pas comme moi, en tout cas. Et lui, il dit qu'il prie, puis il reçoit. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Quand on prie, est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est une parole de l'Évangile, hein? Pourquoi on ne reçoit pas? La parole est claire. Soit que c'est par des buts purement égoïstes, soit parce qu'on demande mal. Dans nos prières, pour avoir la certitude qu'elles vont être exaucées, il faut que le but recherché, ce soit la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux et ne partagera jamais sa gloire pour quelconque de ses enfants. Seigneur, vous savez pourquoi je vous ai parlé de mon cancer? Parce que j'ai promis au Seigneur qu'il va se glorifier à travers ma guérison. Et quand j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Quand je suis capable de dire que Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais je rajoute ceci. Dieu ne promet pas de guérir toutes les maladies. On n'est pas dans l'Évangile de la prospérité, hein? Dieu ne guérit pas, Dieu ne promet pas de guérir toutes les maladies. C'est lui qui sait si c'est à travers votre guérison ou à travers même votre maladie qu'il va se glorifier. Mais une chose est certaine, s'il vous rappelle à lui, vous vous en allez dans la gloire. C'est ça qui est important. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a sauvé, m'a guéri. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne suis pas un modèle parfait pourtant. Je ne sais pas. Et je ne condamne pas personne qui meurt quand il était malade. De toute façon, il faut partir avec l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt en bonne santé. Hein? Il faut partir avec l'idée de ça. Hein? Vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce ceux qui meurent en bonne santé comme à l'âge de 20 ans, 80 ans. Hein? Mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne m'en vante pas non plus. Mais je reconnais que Dieu a eu pitié de moi. Et que j'ai bénéficié de sa grâce, une grâce supplémentaire qui m'a accordé ce pardon. Non seulement ce pardon en Jésus-Christ, mais aussi cette guérison. Dieu a le pouvoir de me pourvoir à tous nos besoins selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Il prend soin de nous pour que nous puissions comprendre qu'il est notre Dieu. Il a le pouvoir de nous purifier de tout péché à travers le sang de Jésus, son Fils. Il a le pouvoir de guérir. Nous avons de nombreux exemples dans les Évangiles. Si nous venons à lui, en lui apportant nos fardeaux, il a le pouvoir de nous donner le repos dont nous avons besoin. Il a le pouvoir de déplacer les montagnes de la vie auxquelles nous devons faire face et aplanir les sentiers. Il a le pouvoir sur toutes choses, puisque tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Si nous nous approchons de lui par la foi, nous trouverons tout ce dont nous avons besoin pour répondre aux besoins de notre cœur et pour notre vie, car il a promis de nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Amen. Et Dieu connaît mieux que vous ce que vous avez besoin. Amen aussi là-dessus. Oui, hein? Ah, là, c'est moins fort, là, amen, hein? Mais c'est quand même ça, hein? Oui. Frères et sœurs, on vit dans un siècle de revendicateurs. De revendicateurs. On ne prie plus, on revendique à Dieu. Seigneur, tu me donnes. Hey! Tu me donnes parce que je te le demande. Hey, on ne parle pas comme ça, Dieu, hein? Et j'en entends des prières, hein? Tu vas le sauver. Hey, viens de donner un ordre au Seigneur, toi. Non, tu veux le sauver. Parce que Dieu veut que tous parviennent au salut et à la repentance. Tu veux le sauver. Ah, ça, c'est différent. Tu vas. Tu vas. Hey, oh, oh. Nous n'avons pas à avoir peur, car il a plu à notre Père de nous donner le royaume. Frères et sœurs, le Seigneur est notre berger. On en a parlé tantôt. Nous ne manquons de rien. Si nous demandons, nous recevrons. Frères et sœurs, première loi. Si nous demandons, nous recevrons. Si vous ne demandez pas, bien, vous ne recevrez pas. C'est la logique. Si nous cherchons, nous trouverons. Ce n'est pas les autres qui doivent chercher pour vous. Le Seigneur, il dit, si nous cherchons. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si nous frappons, on nous ouvrira la porte. Quand on fait du porte-à-porte, nous, l'été, imaginez-vous si on se plante devant la porte et on attend que les gens nous ouvrent avant de sonner, sans frapper. Et là, qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ouvrent pas? Bien, sonne, quoi. Tape dans la porte. Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. Comment ça se fait que le Seigneur ne nous répond pas? Pourquoi le Seigneur, il ne nous ouvre pas la porte? Bien, frappe! C'est pas qu'il s'ouvre. Il veut simplement que tu obéisses à sa parole. Il te demande de frapper. C'est une règle élémentaire. Frappe! Et on va t'ouvrir. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à qui frappe. Et ça, c'est un passage qui est très difficile à accepter pour les vieux chrétiens. Alors que pour le jeune chrétien, c'est clair comme de l'eau de roche. Et pour les vieux chrétiens, c'est... C'est comme la base. C'est simple, hein? C'est simple. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Jésus rajoute ici, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à un fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui se trouve dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il pas de mauvaises choses? Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? De bonnes choses à ceux qui lui demandent? De bonnes choses à ceux qui lui demandent? Vous voulez avoir des bonnes choses qui descendent d'en haut pour vous? Demandez et vous recevrez. Et si vous ne recevez pas, dites pas que c'est la faute de Dieu. Dites pas que Dieu vous aime moins que moi ou qu'un autre. Mettez-vous à genoux, dites Seigneur, regarde dans mon cœur, dis-moi s'il y a quelque chose qui empêche justement que tu exauces ma prière ce matin. C'est ça qu'il faut dire, hein? Est-ce qu'il y a un péché qui pourrait faire ombrage à ce que tu déverses ta grâce dans ma vie? Vous savez, j'ai toujours pensé qu'on fait nos cultes à l'envers dans le milieu évangélique, hein? Ouais. On commence d'abord par la louange. Essayez de parler du péché quand on vient de louer le Seigneur, que tout est beau, tout va bien dans nos vies. Très difficile après d'amener un message où on va exhorter le peuple de Dieu à marcher dans les voies du Seigneur. Moi, je pense sincèrement qu'on devrait faire deux chants d'introduction. Je ne suis pas en train de vous donner, je suis pas en train de changer votre culte, hein? Je suis en train de vous donner mon point de vue. Hein? On devrait commencer par deux chants pour ouvrir la réunion. Après ça, tout de suite, c'est vrai que vous avez la Sainte-Sainte, on fait le message. Après ça, on prend un temps de prière. Et plutôt que d'entendre juste des louanges, on va peut-être entendre des confessions de péché. Hein? Parce que le Seigneur va nous avoir parlé à travers le message. Hein? Frères et sœurs, sans jugement, je connais des gens qui rentrent dans l'Église. Ils ne sont pas en règle en tant que couple. Et ce qu'ils font, ils s'assoient. Seigneur, je te demande pardon. Il n'a rien compris, hein? Il n'a rien compris, hein? Tu vas voir ta femme, tu vas voir ton mari. Tu dis, chérie, si on se réconcilie pas un matin, moi, je ne suis pas capable de prendre la Sainte-Sainte. Ouais. Il y a des histoires de pardon à gauche et à droite. À ce moment-là, quand le message nous parle, on peut confesser un péché. On peut continuer à louer le Seigneur même après. Et on termine le culte avec la Sainte-Sainte. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en principe, le peuple de Dieu s'est réconcilié. On peut même faire un appel au salut à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on invite des gens dans l'Église qui ne sont pas nécessairement sauvés. C'est mon point de vue. Hein? Nous, on a commencé chez nous, on voit des différences. Avant, on finissait le culte sans prière et tout ça. Maintenant, des gens prient. Merci Seigneur de m'avoir parlé dans le message. Merci d'avoir... Et finalement, ben, y a des gens même qui quittent. Qui quittent la place, hein? Ouais. Qui quittent la place pour leur place, pour aller voir quelqu'un d'autre, pour lui demander pardon. Ouais. C'est très difficile, il y a une pression énorme sur le prédicateur quand on fait trois quarts d'heure de louange en début de culte et qu'on va amener un message que Dieu nous a placé sur nos cœurs, un message de repentance ou quoi que ce soit. Nous pouvons prier plusieurs fois, en terminant, nous pouvons prier plusieurs fois le Seigneur de nous délivrer d'une situation difficile. Mais il peut aussi nous répondre, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible, afin que la puissance de Christ étende sa protection sur toi. » Ma grâce te suffit. Frères et sœurs, ma grâce te suffit. Ah, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, nous serions sans espérance, tout le monde ici ce matin. Et Dieu nous a donné une espérance vivante en Jésus-Christ. C'est-à-dire la résurrection des morts. Frères et sœurs, à la croix, on n'a pas juste reçu le pardon de nos péchés. À la croix, il est écrit qu'on a reçu aussi la délivrance. La délivrance. Délivrance de nos péchés. On a été délivrés de la puissance que le péché exerçait sur nous. On a été délivrés de la puissance que le monde exerçait sur nous. On a été délivrés de la puissance que le diable exerçait sur nous. Ça fait partie du miracle de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Amen! Frères et sœurs, on a trois merveilleuses raisons pour faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il est capable, il a la capacité de voir tout ce que vous faites. Il est capable de compatir. Il est capable de répondre à tous vos problèmes. Amen! Je vais céder la place à Patrick.